Chapitre 7. Le but de M. Honeysander. M. Honeysander est mal à l'aise. Cet aphorisme peut sembler téméraire et irrespectueux envers un homme qui doit planer si haut au-dessus des malaises humains, mais on a vu de ses contradictions. Et pourquoi le respectable directeur des Philanthropes Unis de l'Angleterre et de l'univers entier, et répandant son influence redoutable sur les autres asiles tributaires dont jouit la Grande-Bretagne, pourquoi ne sentirait-il pas aussi le pli d'une rose sur le lit de son sublime contentement? Cependant, rien n'est dérangé dans ce système gigantesque de charité que certaines personnes irrespectueuses se permettent de taxer justement de fraude gigantesque. Ces méchantes personnes prétendent que le système fait plus de blessures qu'il n'en guérit et que 90% de l'argent qu'il coûte est employé au salaire, honoraires et émoluments des Honeysanders de l'association et 10% sont distribués au vu et su des souscripteurs. Ne parlons point des embarras que créent les Honeysanders à la véritable bienfaisance en dégoûtant tous les donateurs généreux. Les ramifications de l'Union n'ont pas diminué, ses souscripteurs obligés sont aussi nombreux, la moisson des misères est aussi abondante et permet l'augmentation du capital par de nouveaux appels. On ne néglige pas non plus de dénoncer les opposants et les réfractaires. Non, le monde, celui qu'exploite M. Honeysander au moins, est toujours imprévoyant. Le philanthrope est bas, obtus, étroit, arrogant, ce qui est un gage de succès. Il fait à ravir les circulaires insultantes, les adresses déclamatoires et les avis explicatifs et diffamatoires qui paraissent dans les journaux. À l'entendre, personne n'agit comme on devrait. Personne ne cherche à adoucir les dissensions. Personne ne laisse passer l'occasion de rallumer le feu à demi-éteint des discussions de sectes. Le mal est tout-puissant. Le droit stérile et tout l'univers, en dehors des philanthropes anglais, marchent au naufrage moral et à la ruine spirituelle. Ce sinistre et vénéneux bavardage réussit à merveille et cependant M. Honeysander est mal à l'aise. Placé infiniment au-dessus de Top, il n'a jamais rêvé d'appeler son malaise une tribulation. Il en parlerait plutôt de cette voix dont le moindre murmure est un rugissement. Il en parlerait comme d'une épine mise dans son pied pour lui rappeler qu'il est mortel. Et il ne sentirait probablement pas, même en l'examinant attentivement, ce qu'il se garde bien de faire, qu'il s'est causé ce malaise à lui-même. Les amateurs de Porto et de dîner fin s'imaginent-ils jamais, à 50 ans, que la goutte leur est venue par la faute de la bouteille ? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? S'écrie M. Honeysander dans la solitude de son cabinet. Ne suis-je pas tout à la fois un homme utile et haut placé? Ne suis-je pas nécessaire et même indispensable en accomplissant des actes auxquels, visiblement, la puissance divine prend intérêt? Toute la force et toute l'énergie de ma nature ne me sont-elles pas nécessaires pour les accomplir? Si je suis troublé et ennuyé, comment garderai-je ma vigueur? Et si je ne puis plus rien, la puissance divine n'y perdra-t-elle pas? Pourquoi donc la puissance divine permet-elle que je sois vexé et ennuyé? Pourquoi cette épine dans mon pied? Pour me réconforter, je suis obligé de penser en vérité que saint Paul lui-même se plaignait de l'aiguillon de la chair. Si jamais homme consacra son énergie à la culture d'une plante épineuse, c'est certainement M. Honeysander, aujourd'hui si bienfaisant et d'un caractère si notoirement respectable. Cette plante épineuse, c'était lui-même. Mais il arrive malheureusement que le temps et les soins n'effacent pas toujours ces épines, ni surtout le mal qu'elles ont causé. Ce mal, au contraire, s'aggrave et s'étend quelquefois avec les années. L'arbre croît et s'élargit au lieu de mourir complaisamment au moment précis où nous souhaiterions de le voir disparaître. Un certain nombre d'années plus tôt, quand le philanthrope n'était encore qu'en bouton et résidait dans une ville du nord du royaume, il rencontra sur sa route une jeune fille du nom de Sarah Lowe. La famille de Sarah était l'opposé de respectable, pour ne pas dire qu'elle était basse, bref, de mauvais ouvrier. L'éducation de la jeune fille était demeurée assez incomplète et n'avait en rien modifié son caractère. Elle était vaine, frivole et coquette, attrayante d'ailleurs et très recherchée par des jeunes gens de sa classe. Il serait difficile de caractériser, pour nous servir des expressions de M. Honesander, ce qui arriva entre la jeune fille et lui pendant son séjour dans le Nord. On la disait fiancée à un jeune homme de sa condition, un peu au-dessus peut-être, dont le nom, si jamais le philanthrope l'avait connu, lui échappait à cette heure. Tant d'autres noms avaient depuis lors résonné à ses oreilles, et le sien avait tant étourdi les oreilles des autres. Cet engagement fut rompu pour une raison ou pour une autre. Peut-être la sotte fille s'était-elle imaginée que le philanthrope en herbe l'épouserait. S'il en était ainsi, il ne se souvenait pas d'avoir prononcé aucune parole capable de lui donner une idée si absurde, donc, au point de vue pratique, il ne les avait pas prononcées. Les événements qui suivirent sont encore plus difficiles à caractériser. Ils entraînèrent des conséquences désagréables. On aurait presque pu dire un crime si le mot et la chose étaient croyables en parlant de M. Honesander. Était-il possible que lui, M. Honesander, voué à la vie active et énergique de bienfaisance évangélique, eût séduit la fille d'un ouvrier? C'était là une de ces suppositions dont on ne parle même pas parce qu'elles sont en dehors des possibilités humaines et divines. Qu'il se fût laissé entraîner par une faute dont cette fille avait sa bonne part, à une certaine intimité capable d'engendrer des suites fâcheuses, à la bonne heure. Il pouvait même reconnaître que quelque chose de pareil avait eu lieu. Et, par exemple, un enfant était né qui passait pour être le fruit de cette intimité. M. Honesander admettait, d'ailleurs volontiers, bien qu'il n'eût à ce sujet aucun indice, l'éventualité de la mort de la mère. Morte le cœur brisé par l'abandon et songeant au sort de l'enfant jeté au milieu du monde sans soins, sans protection, pour y mourir de faim ou bien volé et assassiné. Voilà le principal exploit de la jeunesse du directeur des Philanthropes Unis. Aussi, certains fantômes impertinents ne craignaient-ils point de hanter ses rêves du jour, sans parler des visions de la nuit. La grande voix du public n'avait pas encore noyé la petite voix intérieure chez M. Honesander. Mais on l'a dit avant nous, parmi toutes les choses qui réussissent, le succès tient le premier rang en ce monde, et le révérend Luke Honesander, D-P-U-A-U-E, avait réalisé la vérité de cet axiome. La voix publique lui avait été acquise de bonne heure, la sienne toute sa vie. Quand la voix publique ne le portait pas assez haut sur les vagues de l'applaudissement, il pouvait toujours compter sur la sienne, et jamais homme ne fut si entièrement exempt de cette modestie fâcheuse qui a causé les échecs et la ruine de tant d'honnêtes gens. Le monde, heureusement pour lui, était un monde de lutte. Il avait toujours nombre d'adversaires auxquels il pouvait lancer des invectives et des épithètes insultantes. Son auditoire était nombreux, non seulement à l'asile principal, et partout où il dirigeait les opérations de la philanthropie agressive et subjugante, il avait encore le prêche du dimanche matin, où il dépensait l'exubérance de fiel amassée pendant la semaine. Nous ne pouvons donc croire qu'il ne lui était pas difficile d'oublier les petites réclamations de sa conscience au bruit de sa trompette oratoire, de sa grosse caisse philanthropique, et des hurlements de la foule des sots rassemblés pour l'entendre. M. Honesander n'avait pas trouvé deux fois dans sa longue vie publique un antagonisme qui l'irrita au même point que M. Crisparkle. On se souvient de leur antagonisme dans l'affaire de Neville Landless, à qui le philanthrope était aussi heureux de rendre ses comptes de tutelle que le pauvre jeune homme était ravi de ne plus se sentir au pouvoir de cet homme aux manières rudes et à la voix retentissante. Il y avait eu dans les manières du chanoine, lors de la dernière entrevue des deux adversaires à l'asile principal, quelque chose de plus désagréable pour le philanthrope que toute autre forme d'attaque, car il était évident que M. Crisparkle le méprisait purement et simplement. Or, il est difficile à l'homme le plus présomptueux de ne pas se mépriser un peu soi-même lorsqu'il sent percer devant lui le dédain à son égard d'un autre homme qu'il reconnaît intérieurement comme digne d'estime. Sans aucun doute, ce fut une amère pilule d'humiliation pour le directeur, et il avala le jour où il se vit obligé de se remettre en communication avec le chanoine pour rectifier une erreur dans les comptes de Landrès, erreur qui demandait une longue explication. Cette visite, comme nous l'avons vu, porta des fruits auxquels on ne s'attendait pas, en amenant la rencontre du philanthrope et de notre ami Durdles. Le second effet de ce voyage fut d'engager le tailleur de pierre à rendre au philanthrope une visite qui ne devait être rien moins qu'agréable à celui-ci pour employer des expressions obligeantes. Nous arrivons ainsi par deux routes opposées et tortueuses qui se rejoignent au même point, à la raison du malaise de M. Honeythunder, malaise aussi prononcé que celui de Top, est beaucoup moins facile à faire disparaître par de simples topiques. Le petit misérable de Cloisterham, avec lequel M. Honeythunder avait fait connaissance en recevant une volée de pierre et continuait les relations en frappant à son tour et en lui donnant le fouet, le drôle sans éducation, dont toutes les dispositions mauvaises semblaient en pleine floraison, et les bonnes, aussi endormies qu'un grain dans la terre gelée, ce bédouin errant qu'il avait menacé de la prison et de la maison de correction afin de le préserver des galères, cet être-là était son fils. Le fils du révérend Luke Honeythunder. Voilà l'une des lumières du monde évangélique embarrassée d'un enfant. Cet enfant, il n'osait l'avouer, mais il se voyait exposé à faire bien plus, car on allait le lui jeter à la face. L'accusation serait publique. M. Honeythunder connaissait l'animosité de Durdles, son intelligence et sa haine. Il craignait d'ailleurs la coopération du chanoine, dont il soupçonnait aussi le mauvais vouloir. Et quoi ? Le flambeau du monde philanthropique, père d'un petit monceau de saleté, de haillons, de vices, qu'on pouvait lui reprocher d'avoir abandonné ? Que devenait alors sa responsabilité ? Que penserait-on de ses bruyantes adjurations à son prochain sur le devoir d'élever les enfants qu'on a commis et de réparer les fautes qu'on a faites ? Il n'est donc pas bien étonnant que l'épine, qui avait commencé à se faire sentir après la visite de Durdles, fut devenue plus douloureuse à mesure que le temps avançait. L'asile de la philanthropie avait cessé d'être pour Honeythunder un lieu de refuge. Le philanthrope ne trouvait plus un plaisir sans mélange à se montrer au milieu de la foule ou dans la tribune et à entendre les exclamations étouffées d'admiration. « Là, c'est lui ! Voilà M. Honeythunder, le grand philanthrope. Il oblige tout le monde à donner, qu'on le veuille ou non. Oh, il est si bon ! Homme merveilleux, que ferait le monde bienfaisant sans lui ?» etc., etc., ad infinitum, mais jamais pour son estomac, du moins ad nauseam. Cependant, il en était arrivé un jour à décliner l'honneur de présider une réunion où l'on devait voir 10 000 personnes étriées verbalement et 10 000 000 étriées secondairement par écrit. Un combat général, enfin, contre toutes les classes, toutes les conditions, et qui devait se terminer par une pluie de monnaie courante du royaume, sans préjudice de banque-notes, laquelle pluie serait destinée à fomenter des réunions et des étriages futurs. Le génie qui aurait présidé cette assemblée n'aurait guère été moins qu'un demi-dieu. Et certes, il ne faut pas chercher le motif de l'abstention du philanthrope dans la conscience de son indignité. Il avait craint tout simplement que son vagabond de fils ne vînt à sortir du cercle de ses auditeurs et à entonner un chant démoniaque pour lui donner un premier avertissement partout, partout, où je vois mon vieux père, partout, partout, s'il ne me reconnaît pas, je lui lance ma pierre. Après quoi, il aurait bien pu saluer d'une volée de cailloux et manifester sa joie par une danse guerrière. Horreur ! M. Honeythunder prit une résolution au bout d'un certain nombre de jours de ce malaise croissant, et il accomplit avec cette vigueur qu'on ne peut lui refuser, quels que soient d'ailleurs ses autres titres au respect. Il décida qu'il irait à Cloisterham. Certes, il aurait préféré de beaucoup aller ailleurs. Il se promit de rechercher ce jeune démon de son passé et de voir s'il pouvait, sans risquer sérieusement de se compromettre, faire quelque chose pour lui. Phrase vague qui peut signifier également tuer et secourir, pensionner ou faire disparaître. Dans la bouche de M. Honeythunder, elle signifiait simplement quelque chose, suivant les circonstances. Ainsi le subalterne, écrasé d'ouvrage et mal payé de l'asile principal, et les employés moins surchargés et mieux payés des ramifications supérieures, se trouvèrent-ils dûment avertis le jour de cette résolution que le directeur serait absent le jour suivant et peut-être le surlendemain. M. Honesander se disait appelé dans les districts ruraux par une œuvre de bienfaisance qui réclamait sa présence immédiate. Espérons que la candeur de cet avertissement et la pureté des intentions du bon directeur ne se trouvèrent pas obscurcies par un petit incident qui arriva tout juste une demi-heure plus tard et avant que les compliments des sycophantes sur le zèle de leur supérieur pour la cause n'eussent complètement cessé de se faire entendre. Du moins, le murmure flatteur et discret en résonnait encore. L'incident se produisit sous la forme d'un gentleman d'une fortune médiocre, mais charitable et actif, qui avait entendu parler très favorablement des philanthropes unis, comme de gens qui s'occupaient d'un grand système de bienfaisance. Il venait demander l'aide de la société pour former un fonds de secours en faveur des femmes et des enfants d'une quarantaine de mineurs qui avait été tué par une explosion du feu grisou. En recevant cette demande, M. Honesander redevint lui-même. Il retrouva ses phrases rondes et persuasives, il expliqua les règles de l'association, les lourdes charges qui pesaient sur elle quand elle devait subvenir à des œuvres spéciales et légitimes, et fit entendre que cette demande lui paraissait impertinente. Ces phrases étaient les mêmes qui lui auraient valu les applaudissements de la réunion qu'il avait refusé de présider. Naturellement, elles confondirent le porteur de la demande de secours, qui comprit comment il proposait une œuvre véritablement illégitime et qui s'en alla, le regret et la honte au cœur. Voilà les miracles de la philanthropie en Angleterre. Un repos nocturne succéda aux importantes déterminations du directeur. Ses ronflements étaient sans doute aussi bruyants que sa parole. Ce repos se trouva combler l'intervalle entre la bonne action qu'il avait déjà faite en renvoyant l'avocat des pauvres mineurs et la bonne action qu'il méditait de faire, beaucoup plus, il le sentait bien, dans l'intérêt des autres que dans le sien propre. Le jour suivant, il se dirigea vers Cloisterham, un peu indécis sur ce qu'il ferait une fois arrivé là. Mais il se souvint à propos du nom de Durdles. Une crainte le poursuivait, celle d'être obligé, si le temps s'écoulait et s'il ne trouvait pas promptement le sujet de son œuvre, à se présenter dans ce lieu peu évangélique et de mauvais aloi, l'auberge. L'auberge des voyageurs à deux sous, dont le nom était resté dans sa mémoire grâce aux renseignements du tailleur de pierre. Il est cependant un point sur lequel M. Honesander n'est pas indécis. Il peut bien avoir l'intention de faire quelque chose pour le jeune vagabond, mais il ne le fera pas sans laisser en même temps à la ville déshonorée par la présence du jeune vagabond l'idée que le révérend Honesander étend jusqu'à elle les bienfaits des philanthropes unis d'Angleterre et de l'univers entier. Il arrive à Cloisterham sans avoir exercé la patience de Joe, le conducteur de l'omnibus. Contrairement à son habitude, il traverse rapidement le pont, comme s'il faisait une promenade à la Chris Sparkle, et le voilà entré en ville sans avoir excité l'attention et, chose étrange, sans avoir l'air de désirer l'exciter. Il se borne à demander quelques renseignements pour arriver à trouver l'objet de ses recherches. Cependant, il faut ajouter que ces renseignements, M. Honesander les demanda à pleine voix, comme d'ordinaire, d'un ton même un peu plus pompeux, et comme s'il disait « Bonnes gens, reconnaissez en moi la bienveillance incarnée, cherchant à découvrir un objet digne de pitié, et ne me confondez avec aucun autre, ne supposez pas que je puisse avoir un autre motif que l'intérêt de l'humanité et de l'Évangile. » Il demanda à l'enfant sous le nom de député que lui a indiqué Durdles. Il ajoute qu'il a entendu parler de lui comme attaché à un lieu de bas étage appelé l'auberge des voyageurs à deux sous. Mais les renseignements qu'il recueille ne sont pas nombreux. Une seule personne, parmi toutes celles auxquelles il s'adresse, a entendu parler de ce personnage peu recommandable. Cette personne l'avertit que chercher l'enfant serait aussi inutile que de chasser le renard à pied si l'on veut le forcer, attendu qu'il est ici, là, partout et nulle part, presque en même temps et toujours occupé à jouer quelque mauvais tour. Cette personne ajoute que si M. Honesander veut aller au chantier de la cathédrale, à quelque distance du mur de la ville, il pourra y trouver le tailleur de pierre d'Hurdles qui sera plus à même que personne de lui donner des éclaircissements. M. Honesander aimerait autant ne pas voir d'Hurdles, car il ne se souvient de lui que comme du messager qui lui a apporté cette nouvelle, changée depuis en une épine douloureuse. Cependant, il lui semble qu'il n'est pas libre de faire autrement s'il ne veut pas passer sa journée aérée dans la vieille et ennuyeuse ville. Clusterham lui est plus désagréable que jamais grâce à certains de ses habitants. Une ou deux autres questions le conduisent au lieu indiqué parmi les monuments funéraires et les débris de pierre, où il se rappelle avoir subi l'humiliation d'un assaut dû à un jeune démon, alors inconnu, et d'avoir battu le jeune démon, mais là triomphalement et de façon à le réduire presque en bouillie. Puis il aperçoit la hutte demi-ruinée près de laquelle il accosta naguère M. Crisparkle et il entre. Il voit une porte voûtée sous laquelle il sera forcé de baisser sa tête hautaine et il entend au-delà le bruit des instruments du tailleur de pierre. Il se courbe donc en murmurant une imprécation modèle, évangélique, contre les gens qui construisent des portes aussi basses et qu'on devrait arrêter immédiatement pour les forcer à les élever sous peine d'amende et de fortes pénalités. Et il se trouve en présence de l'homme qui lui a fait naguère une visite si mal accueillie à l'asile principal. Durdles travaille à son chef-d'œuvre. Il a enlevé sa veste et la sueur perle sur son front stupide. Il fait d'ailleurs tant de bruit qu'il n'entend pas entrer le philanthrope et ne le voit qu'au moment où il se détourne pour faire quelques pas en arrière afin de mieux juger de l'effet de son œuvre. Puis, quand il reconnaît le visiteur, son visage devient plus sombre. Il recule pour cacher le buste car il ne veut point permettre à l'intrus de le voir et il jette en même temps un regard du côté de la niche voilée. Ce regard dirait à M. Crisparkle l'anxiété de l'artiste. M. Honesander doit encore moins voir le travail placé sur le banc que toute autre chose. « Oh, est-ce bien vous ? » dit-il très rudement quand il juge qu'il a dissimulé suffisamment son œuvre derrière lui. « Oui, » dit M. Honesander, « et vous, l'ami, vous êtes bien l'homme qui est venu me voir il y a quelque temps à l'asile principal et qui m'a donné des renseignements sur un petit garçon. Vous me reconnaissez, je pense. » Sinon, mon nom est Honesander, le révérend Honesander. » Le directeur des philanthropes anglais et étrangers ne parle plus avec cette violence qui fait trembler tous les renégats de la cause philanthropique, c'est-à-dire ceux qui diffèrent d'opinion avec lui. Ceci n'est plus Jupiter Tonnant, mais un simple mortel, et l'ouvrier de mauvaise mine, son marteau et son ciseau à la main, paraît en ce moment supérieur au grand philanthrope. « Oh oui, Durdles vous connaît, » répond-il. « Vous disiez que vous ne viendriez pas, et Durdles disait que vous viendriez. Vous disiez que Durdles mentait, là-bas, au milieu de vos barbouilleurs, que vous maniez comme des outils, tout comme Durdles manie un ciseau, mais peut-être pas si bien. Vous savez bien que ça n'était pas un mensonge alors. La preuve, c'est que vous avez peur de Durdles, sans quoi vous ne seriez pas ici. Mais enfin, vous voilà, un fameux révérend que vous faites. » M. Honesander ne s'était jamais entendu traiter ainsi. Jamais on ne l'avait apostrophé dans ces termes simples, comme dirait un Quaker, depuis le jour où il avait commencé d'étonner le monde par sa taille colossale et la force de ses poumons. Il n'était pas disposé à accepter cette nouvelle manière, ni à se laisser attaquer, lui qui jusqu'alors avait attaqué tout le monde. Il connaissait le principe des ingénieurs et il ne permettait pas qu'on le fît sauter avec ses propres pétards. « Comment osez-vous, misérable ? » s'écria-t-il en retrouvant sa voix tonnante. « Si la loi avait quelque pouvoir dans cet ignoble trou, je vous ferais mettre dans les fers pour langage injurieux envers une personne de condition, ou bien je vous enverrais dans quelque maison de correction où vous apprendriez à être sage. »« Oh, vous feriez cela, hein ?» répondit Durdles d'un air railleur. « Allons donc, vous arriveriez à effrayer Durdles, pas vrai ? Avec votre grosse voix et vos vanteries, n'y essayez pas, notre maître, ça ne réussira pas et vous pourriez en prendre l'habitude. » « Insolent, coquin !» commença M. Honesander. « mais il fut arrêté à l'instant. « Vaut mieux garder votre précieuse respiration pour souffler sur votre soupe. » venait d'interrompre le maçon. En même temps, sa voix devenait plus sourde et son visage, ordinairement si stupide et si insignifiant, prenait un air sombre. « Écoutez bien, » reprit-il, en proie à une violente colère qu'il élevait au-dessus de lui-même, « n'allez pas trop loin si ça vous est égal. Durdle n'a pas envie de vous cogner la tête avec ce marteau, ainsi prenez garde. Vous êtes ici pour rechercher votre jeune diable, très bien, on vous le fera voir. Mais Durdle veut vous dire quelque chose auparavant que vous n'aimerez peut-être pas à vous rappeler. » S'il vous plaît, tournez vos yeux, qui ont regardé tant de grands personnages, sur un pauvre garçon qui n'a pas d'argent que vous puissiez lui filouter comme aux autres, et dites, me connaissez-vous ? Moi, vous connaître, bonhomme ! S'écrie M. Honeysander avec mépris. Non, et je n'en ai pas envie, car vous me faites l'effet d'être au-dessous des soins de la philanthropie. Vous semblez croire que mon voyage à Clusterham se rapporte à cet enfant. Admettons qu'il en soit ainsi. « Montrez-moi donc où il est, prenez l'argent que je vous donnerai et tâchez que je ne voie plus votre mauvaise figure et que je n'entende plus votre langue ordurière. »« Ah, vous ne me connaissez pas, hein ? Vous ne connaissez pas Durdles ? Eh bien, c'est pas bien à vous qui devez connaître tous ceux qui sont pauvres et misérables. Peut-être pourriez-vous vous souvenir d'un certain Samuel Dustin qui allait se marier avec Sari Lowe quand vous la lui avez enlevée, comme un coquin de chanteur de psaumes que vous étiez alors. Vous l'avez laissé avec ce gamin-là dans les bras et vous lui avez brisé le cœur en même temps qu'à moi. » Il y avait une terrible énergie et une émotion communicative dans les paroles du tailleur de pierre, tandis qu'il révélait ainsi les secrets du passé à la face de l'homme qui avait causé tous ses malheurs. Ces paroles eurent apparemment un grand empire sur celui qui les écoutait, car elles terminèrent le conflit. Le directeur des philanthropes unis de l'Angleterre et de l'univers entier baissa la tête par un mouvement plus rapproché de l'humilité qu'on ne lui avait jamais vu, et il demeura un moment silencieux après que Durdle eut fini de parler. L'épine se faisait sentir plus que jamais, et la miséricorde de Dieu était assez grande pour que cette souffrance lui devint profitable. « Samuel Dustin, vous ?» Ce fut tout ce qu'il dit. Puis il y eut un autre silence, puis un gémissement se fit entendre d'une signification plus réelle qu'aucun de ceux qu'il avait jamais poussé à propos d'œuvres légitimes durant toute la période de ses succès philanthropiques. Oui, Samuel Dustin d'autrefois, le vieux Stony Durdles, l'ivrogne à cette heure. Et à cause de vous, Luke Honeysander, le chanteur de psaumes. Voilà ce que Durdles voulait dire. Et il espère que ça ne vous est pas agréable et que vous en parlerez incessamment à votre prêche. Je suis fâché, Durdles, Dustin, peu importe le nom que vous portez maintenant. Je voudrais bien n'avoir pas fait ce qui a été si terrible pour elle et pour vous. Je savais que vous disiez la vérité l'autre jour, bien que je ne vous ai pas reconnu alors. Et je suis venu voir ce que je pourrais faire pour mon petit misérable de fils. Là, est-ce que je ne remplis pas mon devoir ? Et cela ne vous satisfait-il pas ? Et ne devrait-il pas vous dispenser de me dire d'autres injures ? Certainement, Luke Honeysander n'avait pas parlé souvent avec tant de candeur ou de sentiment depuis le commencement de sa carrière de charlatanisme philanthropique. Cette franchise et cette émotion touchèrent aussitôt Durdles lui-même, qui passa ses mains rudes sur ses yeux, mit sa veste, prit son paquet de provisions, le tout sans proférer un seul mot. Puis il jeta un vieux sac sur le bus et dit, sans aucune trace de raillerie, quoique la rudesse de sa voix fût aussi persistante que le grincement d'une scie dans un quartier de pierre, « Oui, ça suffit à Durdles et ça suffira pour lui. » Au moins, cela vaudra mieux que rien. Je n'ai pas vu le mioche depuis 2 heures, mais il s'en allait à ce moment-là vers l'écluse et nous pouvons l'y trouver. Venez, si vous voulez faire ce que vous dites. Arrêtez, un mot, Dustin, Durdles, vous ne me nuirez pas en disant à personne... De quoi avez-vous peur, Luke Honeysander ? Interrompit le tailleur de pierre. Que Durdles fasse des histoires de vous ? Non, si vous prenez soin de son enfant à elle. Mais en voilà assez là-dessus. Je n'aime pas les paroles qui ne servent de rien, Venez. » Ils quittent la masure, suivent une petite rue étroite et misérable, près de l'auberge des voyageurs à deux sous, avec laquelle le directeur n'a plus rien à faire, et se trouvent bientôt sur le bord de la rivière, où ils espèrent trouver Député, occupé à quelque mauvais tour de sa façon, envers les pêcheurs ou leurs bateaux. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin que Durdles se l'était imaginé. À peine ont-ils fait quelques pas dans le sentier qu'ils aperçoivent un groupe de 5 ou 6 personnes réunies sur le bord de l'eau et évidemment émues. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, car en approchant, ils reconnaissent les pêcheurs et entendent quelques exclamations d'alarme et de pitié. Puis ils arrivent près du groupe. Alors, un spectacle qu'ils n'oublieront pas de sitôt et sur lequel les explications ne sont pas nécessaires, frappe leurs yeux. Sur le bord de la rivière est étendu Député, ou ce qui reste de lui, une masse de haillons, de chair sanglante. L'enfant a été presque dévoré, comme s'il était tombé entre les griffes d'une bête fauve. Sa main droite ne jettera plus de pierre si on lui conserve la vie, car elle semble littéralement broyée, os, chair, muscles. La gorge aussi est déchirée, quoique les pires blessures sur ce point soient cachées par une écharpe noire, en soie, couverte de sang et passée autour du cou. Les yeux sont fermés par la mort ou par un évanouissement, et il est presque à souhaiter que ce soit la mort. Tout près de lui se tient le pauvre petit Crochy à genoux, pleurant amèrement. Sa main gauche soutient son menton et sa main droite se tord de désespoir. Crochy, le père, est penché sur le petit blessé. Sa rude figure est pleine de compassion et de douleur, et ses mains sont couvertes de déchirures causées par les efforts qu'il a faits pour secourir des petits. Deux autres pêcheurs sont encore là, et l'un d'eux retient de toute sa force Black Tomboy, dont la gueule sanglante et les yeux enflammés n'expliquent que trop ce qu'on a pu déjà deviner. Un seul témoin pour tout expliquer, c'est le pauvre petit Crochy qui répond aux questions terrifiées et anxieuses du directeur et de Durdles, non sans être souvent interrompu par des sanglots. Il semblerait que Député, en plus d'une occasion, se fût donné le plaisir de bombarder Black Tomboy, mais à distance respectueuse, et avait éveillé ainsi des dispositions vindicatives dans l'esprit du chien. Ce jour-là, quelques minutes plus tôt, il revenait le long de la rivière de quelque expédition de piraterie parmi les bateaux de pêche. En passant, il s'était exercé à lancer quelques pierres au travers d'un filet étendu pour sécher. Le petit Crochy le lui avait reproché doucement et Député lui avait répondu par une volée d'injures plus cruelle que les cailloux dont ses poches étaient remplies. Le polisson avait rappelé la honte de la pauvre Cathy. Il avait fini par renverser le petit Crochy et le battre. Outre cela, le petit Crochy lui-même ne savait pas grand-chose et il était d'ailleurs trop épouvanté pour se montrer bien explicite. Il se souvint seulement que Black Tomboy, qui était couché sous son banc et qui avait dû voir l'assaut à distance, s'était élancé sur Député et l'avait terrassé avant que lui-même eût eu le temps de se relever, qu'une lutte terrible s'était alors engagée entre le chien et le gamin, ce dernier criant et se débattant sans pouvoir se délivrer, jusqu'au moment où Crochy le pêcheur et deux autres, attirés par ses cris, étaient accourus pour arracher sa proie à la terrible bête. Le petit Crochy allait ajouter autre chose encore, mais il changea d'idée et se résolut tout bas de n'en parler qu'à M. Datchery. Il avait en effet remarqué que l'écharpe nouée autour du cou de Député était celle qui avait été remise quelques jours auparavant à M. Jasper. Quand il apprendra ce détail à l'homme aux cheveux blancs, celui-ci se demandera avec surprise si Jasper, effrayé d'être rentré en possession de cet objet, l'a donné à Député pour s'en débarrasser, ou si Député l'a simplement volé pour remplir son devoir professionnel. Il se demandera également si la présence de cette écharpe sur le malheureux enfant a causé la fureur du chien en lui rappelant son aversion pour ce chiffon sinistre. M. Honesender reprit la route de Londres dans l'après-midi du même jour. Il avait frété une voiture particulière pour le porter jusqu'à la station. Là, il monta dans une voiture réservée où se trouvaient un lit, un médecin et une œuvre. Il avait découvert un peu trop tard, peut-être, mais l'objet en était encore vivant. Les chirurgiens de l'un des hôpitaux de la métropole et toute une série d'opérations et d'expériences parviendront peut-être à en faire autre chose qu'une masse de chair déchirée, peut-être quelque chose de plus aussi qu'un infirme ou un démon, peut-être même un homme. De même, l'esprit de M. Honesander sera peut-être débarrassé quelque jour par la pratique d'une bienfaisance nouvelle et sans ostentation, ou par la continuation des influences stupéfiantes de la philanthropie des souvenirs humiliants qui se rattachent à son épine. Quant à Durdles, plongé dans une espèce de douleur stupide qui équivalait à une demi-joie, il se dirigeait en flânant vers son trou dans les murs. Il était sûr de ne plus être reconduit chez lui à coups de pierre le soir et de ne plus entendre les chants de guerre de députés, et cependant il semblait encore avoir perdu quelque chose sur terre. Il ne verrait plus non plus son enfant à lui en haillons sur la route du crime et courant tout droit à la prison. Et qui peut dire ce qui se passait parmi ce mélange de sentiments dans le rudiment d'âme du tailleur de pierre ?